France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Roulons à fond la caisse. Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, un viking fonde la Normandie, sous le beau ciel de notre France. Quand le soleil revient plus doux, comment expliquer le succès de cette implantation scandinave en Normandie quand la nature est reverdie? Quand l'hirondelle est de retour, là, j'aime à revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Crévin Diou.
Roland eut un soir une étrange vision.
Cette effigie, le doigt pointé vers la terre conquise au fil de l'épée et arrachée en 911 au roi de France, c'est celle de Roland, premier duc de Normandie.
Alors en l'an 911, il se décide, Roland.
Voici le pays qui m'était promis. Je veux vivre sur cette terre.
Pierre Bauduin, bonjour.
Bonjour Xavier Mauduit.
Vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Caen-Normandie. Et avec vous, nous allons comprendre comment les Normands ont réussi à s'implanter dans cette région. Déjà, à quel moment commence-t-on, quand on se trouve du côté de la Seine, à voir arriver des gens venus de loin, des Normands?
Alors, les premières attaques des Vikings sont attestées contre le royaume franc à partir de la fin du 8e siècle. Mais véritablement la première expédition, qui est premier signalement, je dirais, de Vikings, on le rencontre dans les annales royales franques vers 820. Et puis ensuite, à plusieurs reprises, dans le courant des années qui suivent, surtout après 840, 841, les Vikings remontent la Seine jusqu'à Rouen, dont ils incendient en partie. Et ensuite, donc, à différentes reprises, à multiples reprises, je dirais, dans la deuxième moitié du 9e siècle.
Ça va très vite, hein, cette histoire-là, quand on regarde la chronologie, parce que on est sur un siècle, on va dire.
Environ un siècle, si on considère que tout est terminé en 900, ce qui n'est pas le cas en fait. Hein, la période viking s'étend au-delà quand même de 911. Mais c'est vrai que dans la vision traditionnelle un peu de l'histoire en France, ça se termine avec l'installation de Roland. Mais c'est pas tout à fait le cas quand même.
Voilà, vous nous dites qu'en 820, sans doute, on voit arriver ici des navires que l'on ne connaissait peut-être pas trop, des gens qu'on ne connaissait peut-être pas trop. D'ailleurs, quand on est dans la vallée de la Seine, au 9e siècle, où sommes-nous en fait? C'est quel territoire, quelle entité contrôle ce monde-là?
Alors, on est ici dans l'Empire franc, hein, l'Empire franc qui est à ce moment-là, dans les années 820, dirigé par l'empereur Louis le Pieux depuis 814, hein, qui est le fils de Charlemagne. Et on est dans cette région qu'on appelle la Neustrie. Alors la Neustrie, à l'époque carolingienne, ça désigne le territoire entre la Seine et la Loire.
D'accord, ok. On a tout ce vaste territoire qui fait partie du royaume France et cet empire de Charlemagne dont il reste quand même énormément de choses. On est en 820, Charlemagne est décédé en 814, donc oui. Voilà, c'est très récent.
Oui, alors l'empire reste maintenu sous le Pieux, mais on va avoir sous le règne de Louis le Pieux différentes crises qui sont liées à des problèmes de succession qui s'annoncent et qui annoncent ultérieurement le partage de Verdun en 843, hein, qui voit trois blocs, si vous voulez, la Francie occidentale, la Francie orientale et puis ce qu'on appelle la Francia media.
Est-ce que ces crises peuvent expliquer l'arrivée des Vikings? Parce que les Vikings ne vont pas s'aventurer là où c'est difficile de, non pas s'implanter, mais enfin, en tout cas, d'amener ces navires.
Alors, ça l'explique pas, mais ça le facilite. Ça facilite le mouvement viking. Hein, les raisons du mouvement viking, elles sont très très compliquées. Il n'y a pas une seule cause simple, hein, mais il y a un faisceau de raisons qui tiennent à l'essor des échanges entre les pays riverains des mers septentrionales, qui tiennent également à l'évolution du monde scandinave. Hein. Je vais pas rentrer ici dans le détail de ces raisons, qui sont d'ailleurs très très discutées. Mais c'est vrai que les conflits internes au monde franc, surtout hein, dans les années 830-840, à un moment où on a une crise grave entre Louis le Pieux et plusieurs de ses fils, et à plus, plus forte raison. Ensuite, à l'issue du, après la mort de Louis le Pieux, quand on a des conflits entre les fils de Louis le Pieux, hein, ça provoque un contexte qui est favorable, je dirais, à ces assauts des Vikings, sans les expliquer pour autant.
De qui parlons-nous d'ailleurs? Parce que ce mot viking, nous l'employons, vous l'employez, Pierre Baudouin. Vous êtes d'ailleurs l'histoire de plusieurs ouvrages autour des vikings. Il y a les vikings, que sais-je, mais l'histoire des vikings, des invasions à la diaspora. C'est un mot que l'on utilise de manière courante, mais qui ne désigne pas bien souvent ce que les représentations lui ont associé. Qu'est-ce qu'un viking?
Alors, un viking, d'abord, première chose, je crois qu'il faut éviter une erreur qui est souvent, qu'on retrouve souvent, c'est que les vikings, c'est pas un peuple. Les vikings, ça désigne à l'origine des Scandinaves qui sont partis loin de chez eux à la recherche de la richesse, hein, par le biais du commerce, par le biais de la piraterie, en exigeant des tributs, sont des guerriers, des marchands qui vont en expédition viking, hein, parce qu'il y a deux termes. Il y a la viking qui désigne l'expédition menée loin de chez soi pour acquérir des richesses, et puis le viking qui pratique ce genre d'expédition.
C'est un métier, quoi.
Alors tous les Scandinaves ne sont pas des Vikings, et je dirais inversement, tous les Vikings ne sont pas forcément des Scandinaves.
Oui, parce que quand on parle de Scandinavie, on évoque d'immenses territoires, et là aussi, c'est la diversité qu'il faut peut-être mettre en avant dans ce monde-là. C'est pas uni. Il y a des traits communs, bien sûr, qui forment une identification, mais ils peuvent venir sur des territoires très vastes, d'horizons différents.
Oui, alors déjà le monde scandinave est très vaste, hein, entre la Norvège, la Suède, le Danemark, les distances sont très très importantes. Effectivement, on a un certain nombre de différences d'une région à l'autre, même s'il y a des traits communs entre ces différentes populations.
Et Roland, lui, vient de Norvège.
Ragnvald, le duc de Mor, était le plus ferme soutien du roi Harald, et ce dernier le tenait en haute estime. Ragnvald avait épousé Hilde, fille de Rolf Nefia. Ils eurent pour fils Rolf et Thorir. Rolf, qui était un redoutable viking, guerroyait souvent sur les rives orientales de la mer Baltique. Un été, comme il rentrait d'une expédition, il accomplit un coup de main dans le Vik. Le roi Harald, qui se trouvait alors dans cette région, laissa éclater sa colère, car il avait rigoureusement interdit de se livrer à des pillages à l'intérieur du pays. Au cours de la réunion de l'Assemblée, le roi proclama qu'il bannissait Rolf de Norvège. À cette nouvelle, Hilde, la mère de Rolf, alla trouver le roi et lui demander grâce pour son fils. Mais Harald était si courroucé que la requête de Hilde n'eut pas de succès.
Thomas Beau dans Le cours de l'histoire qui nous expliquait comment Rollon a été banni de Norvège. Pierre Baudouin, déjà, on peut peut-être s'arrêter sur les sources, parce que la question des sources est fondamentale pour saisir ce qui se passe. Nous essayons aujourd'hui dans Le cours de l'histoire de comprendre comment est née la Normandie, ce territoire français donné aux Normands. Les sources, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ici? Ce sont des sources qui viennent d'où?
Alors là, ce que l'on vient d'entendre, c'est un extrait de la Heimskringla, c'est-à-dire l'histoire des rois de Norvège, qui était rédigé par Snorri Sturluson, alors qui est peut-être le plus grand des auteurs islandais, qui est né vers 1179 et qui meurt en 1241. Et donc qui écrit cette Heimskringla dans les années 1220. 1220, c'est-à-dire qu'on est ici plus de trois siècles après la fondation du duché de Normandie, ce qui évidemment pose un problème, et ce qui est le problème d'une partie des sources scandinaves, enfin d'une grande partie des sources scandinaves qui nous sont parvenues, c'est-à-dire que beaucoup ont été rédigées bien plus tard, hein, bien ultérieurement à la période viking, c'est-à-dire l'essentiel des textes narratifs date des 12e, 13e, voire 14e siècle. On a quelques sources scandinaves contemporaines et écrites, des textes runiques par exemple, ou des poésies scaldiques, mais encore
ces poésies scaldiques nous ont été transmises par des manuscrits ultérieurs. On a surtout de l'archéologie hein, pour le monde scandinave et pour d'autres territoires où se sont implantés les Vikings. Il n'y en a pas beaucoup en Normandie, en revanche, ça faudrait y venir. Et voilà, pour le monde scandinave. Pour ce qui est de la fondation du duché de Normandie, proprement dit, en fait, on a pratiquement aucune source contemporaine. On en a très peu. Le plus ancien document qui mentionne Roland est un diplôme, c'est-à-dire un acte royal hein, du roi Charles le Simple qui, vers 918, mentionne Roland et ses compagnons auxquels ont été concédés une partie de l'abbaye de la Croix-Saint-Ouen, c'est-à-dire l'actuelle la Croix-Saint-Leufroy, aujourd'hui dans le département de l'Eure, et dans une partie du pagus de Madrid ou de Méret, c'est-à-dire un territoire qui est compris entre la Seine et puis l'Eure. Alors le texte ajoute pro tutela regni, pour la protection du royaume. Ça c'est le plus ancien document contemporain de la fondation du duché de Normandie et de Roland lui-même, et le premier à mentionner Roland. Autrement, on a un auteur qui est Flodoard, hein, qui est l'auteur d'Annales, mais dont le texte commence en 919 hein, et qui se prolonge jusqu'en 966. Il est également l'auteur d'une histoire de l'église de Reims hein, qui nous donne des renseignements sur la conversion. On a également deux lettres, hein, une lettre d'Hervé, archevêque de Reims, et puis une autre lettre du pape Jean X, deux lettres entre 914 et 922, qui nous donnent des informations sur la conversion des Normands. On a un texte un peu plus tardif, hein, qui est la complainte sur la mort de Guillaume Longuepée, hein, qui est le fils de Roland, qui est assassiné à la fin de l'année 942, donc le texte est un peu postérieur. Mais notre source principale, c'est Dudon de Saint-Quentin, donc Dudon de Saint-Quentin, qui est un auteur d'origine picarde, hein, qui s'est mis au service des ducs de Normandie, hein, Richard Ier, puis Richard II, et qui écrit une Historia Normannorum, une histoire des Normands, donc elle est connue sous plusieurs titres, on va garder ce titre-là, c'est le plus simple. Il est l'auteur d'une Historia Normannorum, une histoire des Normands, qu'il rédige à la demande hein, de Richard Ier, qui est duc de 942 à 996, qu'il poursuit à la demande de son successeur, Richard II, qui est duc entre 996 et 1026, et donc un récit qu'il achève, que Dudon de Saint-Quentin achève vers, enfin on ne sait pas exactement, mais vers 1015. 1015, c'est-à-dire on est ici un siècle après la mort de Roland. Donc c'est une source qui est extrêmement précieuse hein, sur les débuts de l'histoire normande, mais c'est une œuvre de commande et il faut donc la lire avec précaution.
Eh bien voici Dudon.
Dudon.
La tradition rapporte que c'était une sorte de géant ne se déplaçant jamais qu'à pied. Pour la raison qu'il n'avait pu trouver de cheval assez grand pour lui servir de monture. Dudon de Saint-Quentin, qui lui a consacré le second livre de son De Moribus, ne précise pas son origine. Était-il danois, norvégien, suédois? Les savants scandinaves se sont livrés à ce sujet de véritables batailles. S'accorde-t-on tout au moins sur les faits les plus marquants de la carrière aventureuse de Roland? Il s'en faut de beaucoup. Et même les historiens modernes de la Normandie ne veulent rien savoir de lui avant l'époque où Charles le Simple lui permet de se tailler un duché dans la région de la Basse-Seine. C'est peut-être faire preuve de quelque exagération. Sans doute serait-on bien en peine de dire si Roland se trouvait ou non parmi les Normands, ce jour de septembre 876, où, selon les annales de Saint-Bertin, ils parurent pour la première fois dans les eaux de la Seine. Mais des critiques attentifs ont admis, d'après d'autres sources, qu'entre 880 et 885, il a dû se trouver successivement en Angleterre, dans l'île de Walcheren en Zélande, puis en Frise et en Hainaut, avant de prendre part en 885-886 au mémorable siège mis devant Paris par une grande armée danoise.
Charles Samaran, archiviste, historien, qui en 1954 présentait Rollon avec tant et tant d'incertitudes. C'est sûr que pour savoir qui est Rollon, Pierre Baudouin, vous allez me dire, mais allez lire Pierre Bouet, Rollon, le chef viking qui fonda la Normandie. Non mais c'était une super étude, mais on ne sait pas grand chose de lui. La modestie ici est une obligation. On a des éléments quand même. On sait qu'il a beaucoup voyagé, donc quitté la Norvège sans doute parce qu'il a été banni, beaucoup de voyages. Et il arrive à quel moment à peu près dans la vallée de la Seine?
Alors, Rollon était-il d'abord norvégien ou danois? Donc, évidemment, les historiens se sont écharpés là-dessus il y a fort longtemps, à un moment où on se demandait si Charlemagne était français ou allemand. Hein. Bon, et donc la question a finalement assez peu d'importance, même si une majeure partie d'historiens aujourd'hui penchent effectivement pour des origines norvégiennes. Alors la date de 876, alors c'est pas la première attaque viking dans la vallée de la Seine. Hein. Mais la date de 876, c'est une des trois dates données par Dudon de Saint-Quentin. Hein, et il donne cette date-là comme date de l'arrivée de Rollon dans la vallée de la Seine. Qu'en penser? C'est très difficile à savoir. Dans la mesure où Rollon, la carrière de Rollon, elle nous est connue d'une part par des sources nordiques, mais comme on l'a vu tout à l'heure, les sources nordiques, elles sont rédigées pour la plupart au XIIe, XIIIe siècle. Et puis, d'autre part, par Dudon de Saint-Quentin, qui lui écrit pour les ducs de Normandie, mais au début du XIe siècle, et c'est lui qui nous donne des renseignements sur, je dirais, la carrière de Rollon, notamment dans le royaume franc. Donc, il nous donne des éléments qui ne sont pas confirmés par d'autres sources, donc il convient d'être prudent. Donc il est quand même vraisemblable que Rollon, c'est pas un barbare qui débarque fraîchement de Scandinavie de son bateau en 911. En fait, il est probable qu'il avait commencé à entamer une carrière dans le monde franc avant 911. Peut-être a-t-il participer au siège de Paris, ça c'est très très difficile à dire, parce qu'il y a que Dudon de Saint-Quentin qui nous en parle. Dans la tradition normande également, il aurait eu pour compagne Popa, hein, fille du Prévalent Sprinkeps, hein, du prince illustre Béranger, un personnage qui est issu du monde franc, peut-être, en tout cas c'est une des hypothèses que j'ai pu émettre, un des personnages qui était responsable de ce qu'on appelait une démarche de Neustrie, c'est-à-dire un district militaire chargé de défendre justement la Neustrie. Il y a d'autres personnages qui sont connus pour avoir exercé ces fonctions, et notamment Robert, marquis de Neustrie, fils de Robert le Fort, et donc qui est un des ancêtres des Capétiens.
Avec ici quand même des personnages qui arrivent, et nous parlons de moments très particuliers, 876, le siège de Paris c'est
886.
Voilà, donc toujours au 9e siècle, avec des personnages qui connaissent très bien la région en fait. C'est peut-être ça aussi, parce qu'on essaye de déconstruire, pour le dire simplement, ces visions que nous avons des Normands. Rollon connaît très bien la région, il connaît les gens aussi. C'est pas juste j'arrive, je me pose, je pille et je repars. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne.
Non, d'abord les Vikings en général, lorsque Rollon s'établit en Normandie, ça fait déjà longtemps qu'il fréquente le monde franc par des échanges, par des voyages, par des expéditions de pillage. Un autre élément qui est important, c'est que Rollon n'est pas le premier chef viking à passer un accord avec les autorités franques. Il y a eu plusieurs tentatives par le passé. Dans le courant du 9e siècle, on a vu des rois francs s'accorder avec les vikings. Alors, pour prendre un seul exemple, mais je pense qu'il est assez marquant et assez remarquable, Godfrey, un chef viking, donc qui est présent donc vers 882, qu'on retrouve, qui est assiégé par le roi par l'empereur plutôt, Charles le Gros en 882, à Selt, dans les actuels Pays-Bas, va traiter avec Charles le Gros, et à l'issue du traité, il se convertit, hein, il reçoit une forte somme d'argent. Alors, selon les sources, on va présenter ça soit comme un tribut, soit comme un cadeau de baptême.
Ah ben c'est bien, comme ça, au moins tout le monde est content.
Voilà, au moins tout le monde est content. Et ce qui montre, quand on a plusieurs, c'est rare, mais quand on a plusieurs textes sur un même événement ou sur un même personnage, on peut avoir des visions qui sont complètement contradictoires. Hein. Et puis, Gottfried va épouser, alors soit à l'issue du traité, soit un petit peu plus tard, Gisla, une princesse carolingienne, c'est-à-dire qui fait son entrée dans la famille carolingienne. On est ici entre 882 et 885. L'expérience tourne très mal pour Gottfried, qui finalement va mourir assassiné en 885. Pourquoi ? Parce qu'il a cherché à s'impliquer dans les intrigues dynastiques. Mais ça vous montre quand même qu'on a déjà, avant 911, un certain nombre de Vikings qui ont pu faire carrière dans le monde franc, voire qui ont pu s'intégrer dans le jeu politique du monde franc. Et il faut avoir en tête cette expérience pour comprendre ce qui se passe en Normandie au début du Xe siècle, dans ce qui devient la Normandie au début du Xe siècle.
Et puis dans ce jeu politique, il y a quand même des acteurs incontournables, c'est le clergé, l'Église, et là aussi, il y a dans notre histoire, celle qui nous intéresse, qui va conduire à la naissance du duché de Normandie, des personnages absolument remarquables avec lesquels Rollon s'associe, peut discuter. Évêque, par exemple.
Alors oui, dans l'œuvre de Dudon de Saint-Quentin, on fait intervenir à différentes reprises l'archevêque Francon, archevêque de Rouen. On sait que l'archevêque de Rouen à ce moment-là s'appelait pas Francon, mais il s'appelait Viton ou Guy. Mais Francon, il est dans les listes archiépiscopales, dans les listes des évêques de Rouen. Donc probablement Dudon a pris le nom parce qu'il symbolise un peu l'intermédiaire franc.
Ah, oui.
Déjà par
ça sonnait bien.
Ça sonnait bien. En revanche, on sait que c'est l'archevêque Guy ou Viton, puisque en fait c'est l'un des destinataires d'une lettre qui est adressée par Hervé, archevêque de Reims, un autre personnage très important pour comprendre aussi en particulier l'épisode de la conversion des Normands. Alors d'après Dudon de Saint-Quentin, avant même le traité de Saint-Clair-sur-Epte, Rollon s'accorde avec Francon, fait une sorte de traité avec l'archevêque de Rouen, où finalement on accepte tacitement que les Vikings se présentent dans la basse vallée de la Seine, et de son côté, Rollon demande à ce que la population reste là pourvu qu'elle soit in hermes, c'est-à-dire que qu'elle ne soit pas armée. Donc il y a déjà peut-être eu un accord avant 911 avec l'archevêque Francon. Mais là encore, on est tributaire de Dudon de Saint-Quentin pour cela.
Avec des installations quand même, on l'entend. Alors c'est pas exactement comme un territoire donné par le roi qui devient la Normandie, mais ces Vikings s'installent pendant quelques temps. Ils sont pas là juste à arriver avec leur bateau, à négocier, à menacer ou alors à piller, et puis à repartir. Il y a des moments où ils sont installés quand même sur ces territoires-là.
Oui, alors là encore, la Normandie, c'est pas la première fois, c'est pas la première expérience viking en la matière. Hein. Déjà, il y a eu à plusieurs reprises dans le monde franc des Vikings qui ont été installés avec l'accord du pouvoir franc, hein, notamment en Frise à plusieurs reprises. La Frise, c'est-à-dire une partie des Pays-Bas actuels. Par ailleurs, en Angleterre aussi, hein, il y a eu à partir de 865-866. On voit opérer ce qu'on appelle la grande armée ou la grande armée des païens, hein, dont une partie des hommes va s'installer à demeure à partir des années 875 et va former plusieurs entités politiques dans ce qu'on appelle le Danelaw. Alors le Danelaw, ça désigne la partie nord et est de l'Angleterre, hein, qui va passer sous contrôle danois, entre guillemets, mais quand on parle danois, c'est pas obligé obligatoirement un sens ethnique de Danois d'aujourd'hui. Hein. Ça désigne souvent, de manière assez générale, des Scandinaves. Alors, ces entités politiques hein, qui se sont installées dans le Danelaw, ce qu'on appelle le royaume danois d'Estanglé, le royaume d'York ou les cinq bourgs, ce sont des territoires qui vont être conquis ou reconquis, mais vaut mieux dire conquis, par les rois de Wessex, c'est-à-dire les rois qui gouvernent la partie sud et ouest de l'Angleterre, hein, notamment Alfred Ier, et les descendants d'Alfred vont conquérir le Danelaw, ce qui va permettre d'unifier le royaume d'Angleterre. Il faut dire que l'Angleterre du haut Moyen-Âge n'est pas un royaume unifié, il y a plusieurs royaumes. La carte de l'Angleterre va sortir complètement bouleversée hein, de cette période, et c'est ce royaume d'Angleterre unifié qui plus tard va être conquis, mais on est au début du XIe siècle ici, hein, par les rois Sven à la barbe fourchue et Knut le Grand.
Mais que des gens au nom qui évoquent tout de suite un autre monde, avec ici Pierre Beaudouin, l'originalité, la spécificité de ce qui se passe en Normandie, parce que vous le dites bien, il y a d'autres endroits où il y a eu des traités, des accords, où des Vikings ont pu s'installer, des Normands pour le dire de manière plus large, avec un effet autre que ce qui se passe en Normandie. Il y a vraiment une spécificité normande de ce qui va se passer en 911 avec ce traité de Saint-Clair sur Epte. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous sommes avec les Vikings.
Rollo, tu veux boire un autre gobelet?
Pourquoi pas? Sers-lui un autre gobelet.
Quoi?
Il n'a pas encore noyé son chagrin.
Qu'est-ce que je te dis?
Écoute-moi, j'ai perdu un de mes fils en combattant pour les chrétiens.
Nous avons tous perdu quelqu'un. Un frère, un cousin, un ami.
Pourquoi ce serait différent pour toi?
Vous devriez savoir qu'il faut pas me provoquer.
Regardez-le. Regarde-toi. Il se prend pour Ragnar Lothbrok.
Ils vont te tuer!
Qu'ils essayent!
La série télévisée Viking avec ici tout ce qu'il faut de clichés, bien sûr, et de violence autour de ce monde. On dit Viking et ce sont les peuples du Nord, ce sont les Normands. Pierre Beaudouin, quelle est la motivation de gens comme Roland et de tous ses compagnons quand ils viennent dans la vallée de la Seine? Leur but, c'est de piller, de menacer pour obtenir quelque chose, ou bien est-ce déjà de s'installer? Histoire des Vikings, je prends le titre de votre ouvrage, le sous-titre c'est « Des invasions à la diaspora ». Ce mot « diaspora » interpelle d'ailleurs.
Alors oui, le mot diaspora, il interpelle. C'est en fait depuis une quinzaine d'années, un peu plus d'une quinzaine d'années, on a vu un nouvel objet historiographique, si vous voulez, qu'on appelle la diaspora viking, s'est affirmé dans le discours des historiens. Et le sous-titre du livre, c'est des invasions à la diaspora, parce que on est passé d'une représentation des Vikings sous la forme particulièrement d'envahisseurs, de pirates qui venaient attaquer les côtes de l'Europe occidentale et qui intervenaient également à l'est de l'Europe. On est passé à une autre vision de diaspora. Alors la diaspora, ça suggère donc des communautés vikings dispersées et qui entretiennent entre elles des liens qui ont un certain nombre de points communs qui relèvent par exemple de la pratique de la langue, de la croyance dans certaines divinités, de certains éléments de la culture matérielle. Voilà, la notion de diaspora elle est intéressante comme objet heuristique, c'est-à-dire comme instrument de réflexion, si vous voulez. En même temps, on peut se poser la question, et on se posera peut-être la question au cours de l'émission, si la Normandie fait véritablement partie de la diaspora viking, dans la mesure où on a conservé quand même assez peu, au moins sur le plan matériel, assez peu d'influence hein, de la culture nordique.
Oui, c'est ce que vous disiez, Pierre Baudouin. Il y a peu de traces archéologiques vikings en Normandie. C'est paradoxal, hein, parce qu'on associe vraiment la Normandie à cet univers scandinave. Et l'archéologie ne nous aide pas tant que ça.
Non, alors c'est souvent une grande surprise, hein, notamment quand on reçoit des étudiants, par exemple, ou du public, qui recherche des objets vikings en Normandie. Ben non, il y en a très peu. Hein, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a récupéré un certain nombre d'armes, quelques armes dans la Seine, hein, des épées, des haches par exemple. On a retrouvé, on peut le compter sur les doigts de la main, hein, on a retrouvé deux marteaux de Thor, c'est-à-dire des amulettes en forme de marteau de Thor, donc une des divinités vikings. On a trouvé une paire de fibules ovales. Alors les fibules ovales, c'est très caractéristique du costume féminin. Donc de la mode scandinave. On a retrouvé également il y a quelques années, alors ça c'est très intéressant, on a retrouvé un petit trésor en 2007 à Saint-Pierre-des-Fleurs près d'Elbeuf, hein, dans la basse vallée de la Seine. Quand je dis petit trésor, c'est quelques petits lingots et une douzaine de pièces de monnaie. Pourquoi on est sûr que c'est viking? On le sait d'après la composition du trésor, j'y reviendrai. Et puis parce qu'on a retrouver ce qu'on appelle des pecs. Des pecs, c'est-à-dire des coups de couteau qui s'assurent de la qualité du métal. Ça veut dire qu'on utilisait le métal au poids. On utilisait l'argent au poids. Alors pourquoi c'est intéressant ce trésor? Parce que on y a retrouvé un ou deux deniers carolingiens et puis on a retrouvé neuf monnaies anglaises, enfin des monnaies qui sont des imitations de monnaies anglaises qui ont été frappées dans le Danelaw dont on parlait tout à l'heure. Et on a retrouvé également un dirham, c'est-à-dire une monnaie d'argent arabe, qui avait été donc un dirham safaride. Alors les safarides, c'est une dynastie qui régnait donc sur une partie de l'Afghanistan et de l'Iran actuel. Et c'est cette monnaie, elle a probablement circulé. Bah sur les voies d'échange, hein, qui relient l'Europe orientale, l'Asie centrale, jusqu'à la mer Baltique, la Scandinavie, probablement ensuite l'Angleterre, et puis jusqu'à la Normandie. Alors c'est le seul qu'on ait retrouvé, le seul dirham safaride. On a retrouvé d'autres monnaies arabes en France, mais c'est à ma connaissance le seul dirham safaride dont on est conservé. Donc ce petit trésor, il est intéressant parce que il est assez comparable à ce qu'on a retrouvé, le trésor d'Ashdon qu'on a retrouvé à la fin du 9e siècle, là encore dans le Danelaw. Donc évidemment, on ne sait pas qui a déposé ce trésor, mais c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible que ce soit un viking qui soit venu des zones où qui était à ce moment-là occupé par les vikings en Angleterre.
À quel moment un personnage comme Rollon pense-t-il s'établir? Alors, dans la vallée de la Seine, parce que faut bien le dire, la représentation que nous avons de la Normandie d'aujourd'hui, un territoire qui va du Couesnon, enfin du côté du Mont-Saint-Michel, et puis qui s'éloigne jusqu'à la Normandie actuelle du côté de l'Est, c'est pas du tout celle de Rollon. Rollon, c'est vraiment la vallée de la Seine dans un premier temps, hein.
Oui, alors Roland, à partir de quel moment les Vikings s'établissent durablement dans la vallée de la Seine? Alors c'est très très difficile à dire. Probablement aux alentours du début du Xe siècle, à la charnière des IXe, Xe siècle. Il est possible qu'ils aient qui se soit installé, donc c'est une hypothèse qui a été faite notamment par Jacques Lemau, hein, qui se soit installé dans des installations portuaires de la basse vallée de la Seine, évacués par les Francs, et qu'ils aient à ce moment-là commencé leur implantation. Alors, Rollon et ses hommes s'installent dans la basse vallée de la Seine, à Rouen, autour de Rouen, dans la basse vallée de la Seine, hein, et c'est progressivement que va se construire, hein, le territoire de ce qui devient le duché de Normandie. Donc, traditionnellement, Roland, traditionnellement, on retient trois moments importants. Hein, 924, la cession du Bessin, 933, la cession de ce que Flodoard appelle la terre des Bretons en bordure de la mer. Hein, ce qu'on a souvent, on a souvent suggéré que c'était la cession du Cotentin et de l'Avranchin. Mais au-delà de ce qu'on a appelé parfois les trois traités fondamentaux, 911, 924, 933, il faut bien imaginer qu'il a fallu beaucoup de temps pour les ducs de Normandie pour pouvoir établir leur autorité sur ce qui devient la Normandie. Il leur a fallu quasiment tout le Xe siècle, voire un petit peu au-delà, hein, pour que leur autorité soit véritablement reconnue.
Voilà, donc n'allons pas trop vite, vous avez raison, là nous sommes encore dans une implantation. Alors, autour de Rouen, s'établir, c'est intéressant comme mot dans la langue française, parce que s'établir, c'est s'installer quelque part, s'établir aussi, c'est créer une alliance, et notamment un mariage. Comment ça se passe pour Roland ?
Alors, pour Roland, tout à l'heure, j'ai parlé également d'une union avec Popa, donc peut-être une jeune femme issue de l'aristocratie franque, ce qui voudrait dire que Roland est déjà partiellement intégré dans le milieu franc avant de s'installer, avant que son autorité ne soit reconnue à Rouen, dans la basse vallée de la Seine. En tout cas, c'est l'hypothèse que je défends, mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Voilà. Alors, le texte de Dudon de Saint-Quentin nous mentionne également une alliance matrimoniale, un mariage entre Gisèle, qui est la fille de Charles le Simple, et Roland. Donc, ça ferait partie, d'après Dudon de Saint-Quentin, hein, d'une des clauses du traité de Saint-Clair-sur-Epte, sur lequel on aura l'occasion de revenir sur d'autres points. Alors, ce mariage, il fait l'objet de discussions, hein, d'appréciations contradictoires par les historiens. D'abord, on a parfois remis en question l'existence même de Gisèle. Semble bien quand même que Charles le Simple ait une fille qui s'appelle Gisèle, du moins si l'on en croit la généalogie qui a été rédigée aux alentours de 960 par le prêtre Vigée. Si c'est le cas, elle aurait eu quoi, peut-être 4 ou 5 ans.
Oui, d'accord.
En tout cas, il n'est pas du tout certain, et Dudon de Saint-Quentin le laisse entendre, il n'est même pas certain que cette union ait été consommée. Et donc, on nous dit, Dudon de Saint-Quentin nous dit que Gisla meurt jeune, sans avoir donné d'enfant à Roland, et il reprend Popa. Popa, de cette union entre Roland et Popa, est issue, hein, la dynastie des ducs de Normandie.
Guillaume Longuepée, etc., etc., voilà. Etc. Avec, ici, peut-être une question de religion. Popa, sa religion
Chrétienne.
Elle est chrétienne. Et alors, Roland?
Alors, Roland, il est païen, hein, et il se convertit au christianisme au lendemain du traité de Saint-Clair-sur-Epte. Là encore, hein, ça nous est raconté par Dudon de Saint-Quentin, qui nous rapporte que dans l'année qui suit, hein, c'est la deuxième date qui est donnée par Dudon de Saint-Quentin, 912, il nous raconte le baptême de Roland. Alors, c'est probablement une des clauses, hein, du traité de Saint-Clair-sur-Epte, hein, en contrepartie de la terre qui est accordée à Roland. Celui-ci doit assumer la défense du royaume, la tutela regni dont je parlais tout à l'heure, et puis se convertir au christianisme. Alors on a un épisode qui est également intéressant, parce qu'on nous dit que le parrain de Roland à ce moment-là est Robert, marquis de Neustrie. Vous savez, un des chefs francs qui avait un commandement militaire en Neustrie, et finalement, sans l'accord duquel, rien n'aurait été possible, parce que le roi des Francs a beau être roi, et il doit quand même partager le pouvoir avec un certain nombre de grands personnages. Or, le plus puissant de ces grands du royaume de Francie occidentale, hein, c'est Robert, marquis de Neustrie, donc, comme je disais tout à l'heure, un ancêtre des Capétiens. Or, c'est lui qui devient également le parrain de Roland, et Roland qui prend comme nom de baptême Robert, le nom de son parrain. Or, ce qui est intéressant, c'est que ça, on le sait non seulement par Roland, par Dudon, excusez-moi, mais on le sait également par un document qui est autonome de Dudon de Saint-Quentin, qui est une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Denis, une charte de 968, qui un des très rares documents du Xe siècle, on a très peu de chartes, parlant de Roland, parle de Robert. Et à différentes reprises, il est, dans d'autres sources, appelé Robert. Donc ça, on est à peu près certain qu'il a pris le nom de Robert. Et sa sœur, Gerloc, enfin sa fille plutôt, Gerloc, qui elle porte un nom scandinave, va prendre le nom un nom franc aussi, d'Adèle, qui est peut-être issu du stock anthroponymique, là, également des Robertiens.
Avec ici des personnages qui changent de nom symboliquement, ce changement de nom, ce changement de religion. On voit qu'il y a un tournant très net avec une date à retenir, on le sait bien, c'est 911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte.
Le roi voulut lui donner la terre de Flandre, mais Roland refusa en raison des difficultés causées par les marécages. Le roi s'engagea à lui donner la Bretagne, limitrophe de la terre promise. Robert et Francon revinrent rapporter cela à Roland et le conduisirent auprès du roi Charles dans le respect de la foi chrétienne. Quand les Francs aperçurent Roland, l'homme qui avait envahi la France, ils se dirent « Le voici, ce chef qui fait preuve de puissance, de courage, de sagesse en livrant de si importantes batailles contre les comtes de ce royaume. » Pressé par les encouragements des Francs, Roland mit ses mains dans celles du roi, geste que son père, son grand-père et son arrière-grand-père n'avaient jamais accompli. Le roi donna en mariage à ce duc sa fille Gisèle et la terre aux limites définies entre l'Epte et la mer, en toute propriété, et la Bretagne pour qu'il puisse en vivre.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Le traité de Saint-Clair-sur-Epte, lu par Raphaël Laloum, d'après Dudon de Saint-Quentin. Fatigant, hein, Pierre Baudouin, parce que dans la démarche de l'historienne, de l'historien, l'idée c'est de trouver la documentation et de confronter les sources. Et là, la confrontation est difficile. Malgré tout, dans l'idée même de ce traité, on voit ici qu'il se passe quelque chose. C'est intéressant d'ailleurs parce que vous dites que Dudon de Saint-Quentin ne donne que trois dates. Donc on a un 876, on a un 912, il donne pas la date du traité, mais on sait que c'était
avant le...
L'année précédente, voilà. Voilà. C'est quoi ce traité-là? Qu'est-ce qui se passe ici? Comment un roi de France en arrive à donner un territoire? C'est pour se débarrasser de ces Vikings enquiquinants?
Alors, il y a un double contexte. Il y a un contexte scandinave et un contexte franc. Contexte scandinave, on est effectivement au moment du mouvement viking. On en a largement parlé. Et les Vikings s'installent dans plusieurs régions. On en a parlé pour le Danelaw, mais ils se sont installés également dans les archipels écossais, aux Orcades notamment, également en Irlande, autour de Dublin, par exemple. Quelques années après Roland, on aura un éphémère établissement scandinave autour de Nantes et en Bretagne. Donc voilà, il y a la volonté chez un certain nombre de ces Vikings de vouloir s'établir sur place.
Alors ça, côté scandinave, côté franc.
Alors côté franc, il faut tenir compte. Du contexte politique, c'est que Charles le Simple, il est un descendant de Charlemagne, son pouvoir il est fragilisé, notamment par un certain nombre de princes puissants dans le royaume. On a parlé par exemple de Robert, marquis de Neustrie. Il y en a d'autres également, et il doit donc composer avec les grands. Alors il est aussi préoccupé par une autre question qui, je pense, est pour lui aussi importante, sinon plus importante que la question normande, qui est la question de la Lotharingie ou la Lorraine, qui est un peu disputée à ce moment-là entre le royaume de Germanie et la Francie occidentale. Et évidemment, il cherche à mettre la main aussi sur la Lotharingie. Et je dirais, régler la question normande peut également l'aider de ce côté-là. Il semble vouloir aussi renouer avec le prestige de ses prédécesseurs, et donc là aussi ça joue dans ce contexte. Et puis enfin, il y a un autre élément important à prendre en compte, c'est que ce qui est en jeu, c'est l'insertion de Rollon dans le cercle des grands du royaume, hein, parce que on ne peut pas imaginer que l'établissement d'un chef viking à Rouen et dans la basse vallée de la Seine, c'est-à-dire un secteur qui est quand même très important sur le plan économique, sur le plan stratégique, parce que c'est quand même une ouverture maritime, hein, notamment vers les îles britanniques. On peut pas imaginer que cette installation se soit faite sans qu'il y ait une négociation avec les grands pour discuter aussi de la place de Rollon dans cette nouvelle configuration du monde franc. C'est-à-dire que c'est un jeu où il y a finalement au moins trois grands acteurs, que sont le roi, et c'est lui qui va concéder, qui va juridiquement concéder ce territoire à Rollon. Rollon lui-même, bien entendu, hein, et puis Robert, marquis de Neustrie, c'est-à-dire le personnage le plus puissant en Neustrie, sans l'accord duquel il aurait été quand même très difficile que cette négociation puisse aboutir.
Au traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911, le roi des Francs, donc c'est Charles le Simple, Charles III, donne quoi en fait ? Il donne un territoire, mais le découpage lui-même repose sur quoi ?
Alors le territoire, Dudon de Saint-Quentin nous dit qu'il donne le territoire entre l'Epte et la mer. Donc l'Epte, c'est un petit cours d'eau qui est un affluent de la Seine et qui coupe en deux le Vexin. Donc on va distinguer à partir de ce moment-là le Vexin normand et le Vexin français. Donc de l'Epte à la mer, ça on est à peu près d'accord là-dessus. Probablement un territoire qui s'étend jusqu'à eux, puisqu'on sait d'après les annales de Flodoard que eux fait l'objet de conflits, hein, de combats dans les années 920. Alors on sait aussi d'après le diplôme de 918 également que ce territoire avait une extension, hein, sur la rive gauche de la Seine, hein, puisque le diplôme de 918 nous dit que Charles le Simple a cédé, hein, une partie de l'abbaye de la Croix Saint-Ouen à Rollon et à ses compagnons pro tutela regni, pour la protection du royaume. Voilà, donc une partie, on a un territoire également entre la Seine et puis la rivière Eure. Pour le reste, eh bien, on ne connaît pas exactement la limite occidentale du territoire qui est concédé à Rollon. Donc qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est Rouen, la basse vallée de la Seine qui constitue le gros morceau, des territoires également à l'ouest de la Seine, et puis une bonne partie l'essentiel du pays de Caux et jusqu'en gros la Brelle, donc à l'est de la Normandie. Voilà, donc on a une idée assez bon, on n'a pas une idée très très extrêmement précise, hein, du territoire qui est concédé. Flodoard nous dit que donc qui écrit son histoire de l'église de Reims vers 948-952 nous dit que il a reçu plusieurs pays maritimes, autour de Rouen. Donc ça coïncide à peu près à cette description.
Voilà, Rollon a de quoi s'installer.
Rollon, c'est 911, c'est l'époque du traité verbal de Saint-Clair-sur-Epte entre Rollon, Roll le Marcheur, et Charles le Simple.
La terre qu'il trouve et qui deviendra la Normandie, c'est un morceau de la Neustrie.
Oui, c'était le bassin de la Seine qu'il avait entièrement pillé, d'ailleurs, il faut le reconnaître, dans lequel il s'était installé. Et à la suite de sa demi-défaite aux alentours de Chartres, il s'est replié. Et c'est là que l'archevêque de Rouen a senti que Rollon était peut-être prêt à planter sa tente. Et il a incité Charles le Simple à traiter avec lui, malgré que Charles le Simple fût absolument opposé à la chose. Mais il fallait se débarrasser de ces Normands qui dévastaient le pays et qu'on ne pouvait jamais vaincre. C'était avant tout des cultivateurs, c'était des paysans. Ils étaient devenus pillards par nécessité et il leur fallait des territoires nouveaux parce qu'ils étaient trop nombreux chez eux. Moyennant quoi, ils ont commencé par piller et ensuite à s'installer. Ils ont apporté avec eux différentes choses fort importantes, une notion du métal travaillé, l'équitation, les armes, et en plus, un sens civique qui n'existe évidemment pas en Eustrie, qui était habité en général par des immigrants. Ils ont mené le pays en instituant l'ordre, une grande discipline, et la crainte d'une autorité qui intervenait, d'où le vol était absolument interdit, puni tellement gravement qu'il n'était plus possible de voler.
Nous étions en 1978 avec Michel Planchon, auteur d'un ouvrage intitulé « Quand la Normandie était aux Vikings », de Roland à Guillaume le Conquérant, avec ici l'évocation de Normands paysans, parce qu'on peut parler de Vikings. Les Vikings, on l'a bien dit, c'est une activité, c'est à la fois commerçant, explorateur, et pourquoi pas un peu pirate. Est-ce que la volonté ici, c'est d'installer des gens qui vont devenir des agriculteurs, donc on y a besoin d'une terre, quoi?
Oui. Alors bon, je vais revenir sur l'extrait parce que c'est un peu un happy end de cette affaire, avec quand même des exagérations quand on dit qu'on apporte l'équitation, etc. Non, hein, faut pas trop en rajouter. Alors effectivement, la question de du peuplement par les Vikings de la Scandinavie, elle a fait l'objet quand même de beaucoup de questions, et il faut revenir là encore sur la question des sources. Hein, qu'est-ce qui nous le fait connaître. D'abord, on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de témoignage archéologique. On a conservé à peu près aucun témoignage d'habitat viking, que ce soit un habitat rural ou que ce soit dans les villes normandes. On n'a rien, absolument rien de comparable à ce qu'on peut voir, par exemple, à York ou bien à Lincoln en Angleterre. Voilà. Ce que l'on sait, ça repose alors en partie sur les sources écrites, sur les récits. Alors par exemple, du Don de Saint-Quentin nous dit que Roland a distribué à ses compagnons la terre en la mesurant au cordeau, hein, c'est-à-dire une pratique qui est par ailleurs attestée visiblement en Scandinavie. Et puis on a également un certain nombre de toponymes, hein, qui ont une origine norroise. Alors bon, je ne vais pas refaire toute la série des toponymes, mais on a par exemple un certain nombre de toponymes en to, hein, comme on voit à Ifto par exemple, hein, qui dérivent de toft. Toft qui désigne la parcelle clôturée et bâtie de la ferme dans la langue norroise. On a des éléments en bec également, un brickbeck par exemple qui vient de becker, qui veut dire le ruisseau. On a également des toponymes hybrides, c'est-à-dire des toponymes qui, ce qu'on appelle des hybrides de Gonneville, c'est-à-dire que c'est une famille de toponymes qui porte un élément roman, ville, villa, qui veut dire domaine rural, et puis un nom, souvent un nom norrois, en général un nom de personne. Et puis on a un certain nombre de termes, par exemple en tui, qui vient de tveit et sar. Voilà. Cela dit, c'est quand même très difficile à partir des éléments toponymiques d'établir une chronologie de l'implantation. La plupart du temps, on ne sait pas quand ces toponymes ont été formés. On sait qu'ils sont plus nombreux en Pays de Caux, en Bessin, dans une partie du Cotentin, mais ça ne nous donne pas des indications très précises sur la colonisation. Il y a quand même beaucoup de débats, hein, je dirais, autour de la formation des toponymes. Hein. Est-ce qu'ils se sont formés dans un milieu linguistique où on parlait la langue norroise ou pas? Là encore, il y a un certain nombre de débats autour de ces questions-là. Alors, il est probable qu'il y ait eu un certain nombre de paysans qui se sont installés parmi les Vikings. On a conservé dans le français régional de la langue, dans le français régional de la Normandie, un certain nombre de mots qui ont une origine norroise, alors qu'ils sont intéressants parce que là on a environ 150 mots, hein, qui sont passés de la langue norroise vers la langue d'Oyle. Donc du français régional de la Normandie, voire du français tout court. Hein. Le mot flotte, par exemple, hein, vient de flotta. Hein.
Donc ça vient du norrois, le scandinave ancien. Quoi.
Voilà. Et parce que le latin de flotte, c'est classis, hein, qui n'a pas de postérité. de ce point de vue-là. Si on regarde ces noms, alors ça a été bien étudié notamment par Elisabeth Riddell, si on regarde ces noms, plus de 60% ont trait à du vocabulaire maritime, du vocabulaire lié à la mer et à la navigation. Les haubans, les crabes, voilà, tout.
La banquise, paraît-il.
Moi, je suis pas sûr pour la banquise, mais effectivement, ça fait partie de ces noms. Ça veut dire que ça représente quand même un domaine qui est assez spécialisé. On a peu de termes qui concernent la vie courante.
Et alors, parmi tous ces termes, il y a ce nom de Normand qui va donner le nom au territoire, la Normandie. Ce nom de Normand, c'est les hommes du Nord, hein, tout simplement. Oui. Qui l'utilise? Ce ne sont pas eux-mêmes qui l'utilisent?
Alors, Normand, il faut... d'abord, ça se retrouve déjà avant la création de la Normandie. Hein, dans les sources franques, pas uniquement franques, on retrouve ça aussi dans un certain nombre d'autres sources des îles britanniques. Les Normandies, effectivement, ça désigne les hommes du Nord. Hein. Ça signifie simplement les hommes du Nord, et c'est le nom qui va être progressivement aussi adopté pour désigner également les habitants de la Normandie. Dans le courant du Xe siècle. Alors parfois c'est difficile de distinguer hein, dans quelques textes, c'est parfois difficile de distinguer quand on parle de Normandie, est-ce que ça désigne des hommes du Nord ou est-ce que ça désigne des Normands? C'est pas toujours évident, hein, notamment oui. dans des sources du Xe siècle. Alors il faut rappeler aussi que aux yeux des observateurs extérieurs à la Normandie, les Normands ont longtemps aussi gardé une réputation de pirates. Hein. Par exemple, l'historien Richet, qui écrit à la fin du Xe siècle, lorsqu'il parle des ducs des Normands, il parle de Dux Piratarum, de duc des pirates, ce qui montre bien quand même l'image qui est attachée à ces Normands.
Ouais, voilà, ces Normands qui, ça y est, sont installés en Normandie avec le statut du territoire. C'est quelque chose d'autonome, bien sûr, c'est un duché tout de suite. C'est simplement un vassal du roi de France.
Alors, le traité de Saint-Clair sur Epte montre que, avec les réserves que l'on peut avoir hein, sur le texte de Dudon de Saint-Quentin, montre que Roland devient le fidèle de Charles le Simple. Ça fait à peu près aucun doute, mais qu'il tient la terre en bien fond et en alleu. Hein, nous dit le texte. Alors c'est très, ça fait couler beaucoup d'encre. Un alleu, c'est-à-dire une terre libre, donc qui n'a en principe pas de seigneur. Donc ça voudrait dire que, en fait, Roland est bien le fidèle du roi de France, mais il ne tient pas la Normandie comme un fief.
D'accord.
Voilà. Bon, il doit quand même la tutelle à Régnier, la protection du royaume. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, hein, d'après ce diplôme de 918, la tutelle à Régnier, c'est-à-dire qu'il doit défendre le royaume, notamment contre ce qui peut être une des principales menaces, c'est-à-dire d'autres bandes vikings qui pourraient tenter de remonter la vallée de la Seine.
Bah oui, parce qu'il est là pour ça quand même. On sent bien que le traité de Saint-Clair-sur-Epte a été accordé en cela avec 911 Saint-Clair-sur-Epte, c'est la vallée de la Seine. Et puis après, faut pas longtemps, hein, faut aller une vingtaine d'années pour que tout le territoire de la Normandie actuelle devienne vraiment normand. Merci vivement à vous, Pierre Baudouin, d'avoir fondé la Normandie quand même avec nous. Merci. En remontant jusqu'en Scandinavie, histoire des vikings, des invasions à la diaspora. C'est votre ouvrage chez Talendier. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Prochain épisode dans le cours de l'histoire, mais quand commence histoire d'une ville, comme un very good de trip, sachant que les meilleures tripes au monde sont les tripes viroises à la mode de Caen. Mais quand commence Caen?
Pendant les vacances, je fais rien. Rien, je veux rien faire. Je savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire, à Caen les vacances, à Caen les vacances, j'ai dit bon, je vais aller à Caen. Et puis à Caen, ça tombait bien, j'avais rien à y faire. Je boucle la valise, je vais pour prendre le car, je demande à l'employé pour quand, quelle heure? Il me dit pour où? Tu dis pour quand? Il me dit comment voulez-vous que je vous dise quand si je ne sais pas où?
Raymond Devos, un classique dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Bouaïc, aujourd'hui la technique Ludovic Auger, émission préparée par Jeanne Copé, Jeanne Delecroix, Raphaël Lalou, Maël Vincent Randonnier et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.